blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, Dominique Barjol, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, toujours à la Foire du Valais où nous nous rencontrons. On parle d'agroécologie parce que ce mois d'octobre est consacré à l'agroécologie en Suisse. Un petit peu sur le modèle de la semaine du goût, on essaye de parler de l'alimentation. Ça, c'est le mois de septembre. Au mois d'octobre, il y a diverses associations qui se sont dit il faut qu'il y ait une attitude d'aller vers les gens et de leur expliquer ce que c'est. Alors, dites-nous, c'est quoi l'agroécologie ?
Alors l'agroécologie ne se décrète pas, je ne veux pas dire cette ferme est agroécologique ou n'est pas agroécologique. L'idée de l'agroécologie, c'était surtout de recentrer sur la relation entre l'écologie et l'agriculture et de dire ça se passe à plusieurs niveaux. Donc il y a le niveau vraiment de la parcelle, le champ, où on va regarder la santé du sol, la santé de la plante et comment cette santé s'insère dans la santé de l'écosystème et l'importance évidemment de la biodiversité et l'équilibre de cette biodiversité avec les interventions de l'agriculteur. Et ensuite, on a dit un niveau de la ferme et le système de l'exploitation en lui-même, c'est-à-dire pourquoi je produis ça et pas ça, pourquoi je me spécialise et je fais peut-être que des arbres fruitiers et je ne fais rien d'autre, avec l'idée que la diversité de ce qu'on produit va répartir mieux les risques aussi et qu'on a peut-être eu plusieurs dizaines d'années sur l'idée que la spécialisation allait réduire les coûts et qu'on avait un intérêt objectif à se spécialiser parce qu'on devenait hyper compétent sur une production. Et maintenant, avec l'écologie plus prise en compte, on va dire dans sa complexité aussi, on va dire répartissez les risques et diversifier un petit peu ce que vous mettez, même sur une parcelle de verger, on va pouvoir mettre des cultures, on va pouvoir mettre des animaux, ce qu'on n'avait plus fait depuis très longtemps.
Oui, depuis très longtemps, mais ce qu'on a toujours fait, en
Alors,
fait.
Alors, historiquement...
C'est marrant, comme dans tous ces problèmes qui sont devant nous, les problèmes du climat, c'est un peu la même chose, on se rend compte que progresser, c'est revenir un peu en arrière.
C'est réinventer, on va dire. Ouais. On ne va pas dire qu'on refait, comme moi j'ai fait ma thèse là, en Valdillier, Val d'Abondance, et j'ai été la semaine passée redonner une conférence à ces gens des vallées, pour leur faire part de mon étonnement sur les évolutions. Et j'ai repris ma thèse. Et en 1750...
Vous avez fait votre thèse en 1750 ?
Non, en 1750, j'avais étudié à l'époque comment les gens avaient développé le système d'agriculture dans ces vallées. Trois quarts ou quatre cinquièmes de leur temps, ils le passaient aux cultures de céréales. Donc, on n'imagine plus ça. Donc voilà, ils produisaient pour eux-mêmes. Et puis ensuite, les produits animaux, ils les exportaient un petit peu en dehors de la vallée, ça leur faisait un peu de cash. Voilà, c'était comme ça qu'on vivait à l'époque.
Ils descendaient en plaine pour faire du raisin aussi, c'est le cas à Martigny. Là,
voilà,
il y a plein de gens des montagnes qui descendaient
venaient, voilà,
et qui faisaient...
Des échanges de main-d'œuvre, ouais, des échanges de produits. Mais l'idée, c'était basé sur l'autoconsommation. Alors, personne ne parle à l'heure actuelle de revenir sur des...
De retour à l'autoconsommation.
Non, ouais, on ne va pas revenir à labourer à la main pour faire des céréales dans les... Non, on va réinventer. C'est-à-dire qu'on dit, on a produit des céréales dans le temps. Qu'apporterait des céréales dans notre écosystème à l'heure actuelle ? Eh bien, il peut apporter une santé pour le sol, une nouvelle manière de, disons, de nettoyer la prairie qui va peut-être se dégrader avec le temps. Et voilà, on va repenser. Donc, on a un bel exemple au Valposchiavo, qui est une petite vallée des Grisons près du glacier de la Bernina, où ils ont réintroduit des céréales dans une haute vallée qui est à plus de 1000 mètres d'altitude. Et là, ils en ont fait une spécialité qui se vend très bien au restaurant, qui s'appelle le pizzoccheri ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc c'est de dire qu'est-ce que ça leur a amené dans le paysage, dans leur écosystème, de diversifier, de réinventer un modèle. Et bien sûr qu'ils ne vont pas le manger eux-mêmes, ils vont le vendre au restaurant, qu'ils vont faire une spécialité locale, qui se vend bien, qui est un nouveau centre d'attraction pour les touristes. Voilà, c'est logique. Et
ça
c'est
marche
aussi d'intégrer donc le sol, le système de l'exploitation et de la ferme avec son environnement plus large. Mmh. Donc, pourquoi pas faire le lien avec le tourisme, mais aussi avec la recherche, se mettre en réseau de connaissances pour arriver à surmonter des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre tout seul, comme le changement climatique est-ce que ça va avoir comme impact sur les rendements ?
On reviendra peut-être au changement climatique, mais j'entends déjà les gens qui doutent, hein, de se dire, bon, ben ok, on peut faire des choses, on le fait déjà, hein, il y a une vague de spécialisation, goûter local, terroir local, etc., qu'on vend, comme vous le dites, au restaurant ou dans des boutiques dédiées. On a la Cavagne, par exemple, dans la vallée d'Illier, qui fait ça très très bien, mais ça reste des marchés de niche, c'est pas avec ça qu'on mange tous les jours. On peut tous manger avec... je parle même pas du monde, hein, ça on y viendra peut-être, mais en Suisse, on mange pas que des produits de terroir, quoi.
On mange pas que des produits de terroir, mais sans produits de terroir, vous n'auriez plus d'agriculteurs en Valais, je pense. En tout cas, sur le vin, sur les élevages, sur l'entretien des alpages, s'il n'y avait pas des produits de terroir, même consommés beaucoup en Valais, et principalement par les touristes et la population valaisanne, il n'y aurait pas, disons, y a pas d'alternative, en fait, que de vraiment faire valoir ce terroir pour aussi avoir un prix qui récompense l'effort. Et c'était intéressant, ce travail que j'ai fait, parce que j'ai comparé les chiffres par hectare, par personne. On n'a pas doublé la productivité de nos exploitations de montagne, pas du tout. Ils sont dans des proportions d'avoir fait un progrès de 30-40% sur la productivité. Par rapport aux plaines et à ce qu'on peut faire avec des grosses machines en plaine, il y a un fossé qui s'est creusé là. Donc sans ces produits, à mon avis, voilà.
Ici, l'agriculture disparaît, on l'entend,
Ah oui,
bien.
Disons, ils m'ont dit, vallée d'Abondance, ils m'ont dit que la vallée d'à côté, s'il n'y avait plus d'agriculture du tout, parce qu'ils n'avaient pas du tout joué la carte terroir. Et maintenant, c'est des professionnels qui sont payés par la municipalité qui viennent entretenir les quelques prés qu'ils laissent ouverts pour le ski. Point, c'est tout. Donc, c'est un paysage qui change, mais c'est aussi un paysage humain qui change.
Là, on est sur l'agriculture de montagne, quelque chose de très particulier. Si on part d'un plan beaucoup plus général, c'est une question qu'on entend souvent quand on parle de méthodes alternatives, hein, par rapport à l'agriculture intensive ou à l'agriculture telle qu'on la connaît, industrielle presque, enfin presque non, hein, carrément dans certains endroits, c'est de dire, ok, là je parle du plan planétaire, c'est bien joli, c'est fait pour les pays riches, mais on va jamais réussir à nourrir tout le monde avec ces systèmes rendus plus petits, plus immédiats, plus locaux.
Bon, là, on peut discuter longtemps, mais disons, ce qu'il y a maintenant, à l'heure actuelle, plus de 60% des paysans du monde, ils se nourrissent encore comme on se nourrissait en Valdivia en 1750. Il ne faut pas imaginer que tout le monde est rentré dans l'agro-industrie dans les pays en développement. C'est de loin pas le cas.
Ça veut dire qu'ils vendent aux multinationales, mais ils font aussi leur propre nourriture.
C'est qu'en fait, nous, on va aller voir ces petits paysans qui font le café et le cacao dans la plupart des cas. C'est des paysans qui, en plus du café et cacao,
font leur propre nourriture.
Ils font leur propre nourriture. Et s'ils ne font pas leur propre nourriture, ils n'ont rien à manger. Parce que déjà, la nourriture n'arrive pas chez eux. Donc, il y a un peu, disons, on n'est pas sorti, disons, de ce modèle de l'autoconsommation au niveau mondial. Et il est un facteur de résilience très important. Parce que, évidemment, qu'en cas de guerre, en cas de conflit, heureusement que les gens n'ont pas cessé de produire pour eux-mêmes dans ces pays-là.
On en est où en Suisse sur l'autosuffisance?
Nous, on est à 47%, je crois, de taux net. Ça veut dire qu'on importe quand même déjà plus de la moitié des calories qu'on mange si on déduit tous les aliments du bétail qu'on importe pour produire la viande chez nous.
Bon, mais on sait qu'on peut planter des carottes sur les terrains de foot. Hein. C'est ce qu'on a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Ah bon, d'accord, ok. Non, mais on a tout un plan aussi pour si on avait une guerre.
Mais il faut
etc.
que la philosophie change en Suisse. Alors, je crois que c'est le cas. Hein. Le Conseil fédéral veut, à horizon 2050, qu'on augmente, qu'on diminue les effets de l'agriculture sur la nature et puis qu'on augmente aussi la productivité pour être un peu plus autosuffisant.
Disons, c'est un but de sécurité alimentaire qui a été renouvelé parce qu'on a voté récemment un changement dans la Constitution. On a remis la sécurité alimentaire en première ligne. Donc, je dirais que c'est la mission la plus reconnue à l'heure actuelle par le peuple. Donc, c'est normal qu'on s'attelle à la mettre en œuvre.
Je reviens aux questions de base que je me suis posées en me disant on va parler d'agroécologie. Agroécologie, ça veut dire bio ?
Non, l'agroécologie, ce n'est pas un mode de production. Il ne faut pas...
C'est une philosophie de comment...
Voilà, c'est plus une transition ou une évolution, disons, où chacun peut se situer. Donc, il y a des gens qui ne sont pas du tout bio et qui vont quand même être sur un gradient d'agroécologie. Donc, ils seront peut-être forts sur une composante, beaucoup moins forts sur une autre. Il y a 10 principes de l'agroécologie et il peut y avoir des endroits où il y a beaucoup de production tout en ayant un niveau excellent de diversité des cultures, par exemple. Mais on sera en intensif, mais il y a une très bonne diversité des cultures. Donc, on va dire, bah, là, il y a quand même un atout fort qui fait partie des principes de l'agroécologie.
L'agroécologie, je suis toujours dans les questions qui me sont venues comme ça, bim, boum. Hein. L'agroécologie, c'est une façon de se sortir de la dépendance de la chimie. J'entends ce dont on entend beaucoup parler, hein, c'est-à-dire on vous donne des plants qui vont avoir besoin de médicaments produits par la même entreprise, etc. Et puis vous entrez dans un engrenage dont vous ne pouvez sortir.
Je pense que l'agroécologie, elle va chercher à faire sortir l'agriculteur de plusieurs dépendances. D'abord, la dépendance effectivement de l'achat des intrants, mais aussi la dépendance à un savoir-faire qui serait hérité et non repensé par rapport à ce qui l'entoure. Donc c'est de se remettre aussi un petit peu le nez dans le cambouis, de dire « Ah oui, d'accord, j'ai appris à faire ça, jusqu'à présent j'ai fait ça, et maintenant ?» Il y a le changement climatique, il y a les marchés qui sont peut-être trop rigides et j'ai plus de bons prix. Comment faire pour retrouver un équilibre? Donc voilà, c'est se sortir des routines pour arriver sur des mécanismes vertueux de retrouver un petit peu de confort.
Alors il y a ce mois de l'agroécologie, hein, on y est, c'est le mois d'octobre. Ça fait quelques années maintenant, je crois que c'est la 4e ou 5e édition. C'est important, hein, parce que là encore, moi j'ai cette vision extérieure qui fait que soit on est bio, soit on est indus, hein, en gros industriel dans ce monde-là. Or, vous venez de nous expliquer que ça pouvait être différent, ça pouvait être vertueux sans forcément aller vers le bio. Il faut se faire connaître. La question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, les agriculteurs qui vont dans cette démarche et qui militent pour elle?
Alors, je ne pense pas qu'il y ait un militantisme en quelque sorte. Nous, on a, au niveau scientifique, on a repéré des initiatives qui nous paraissent intéressantes, qui montrent peut-être des chemins nouveaux et des manières nouvelles d'emparer ces problèmes actuels.
Peut-être pas militants, parce que c'est quand même des gens qui ont réfléchi et qui se sont dit on ne peut plus faire comme ça. Quoi.
Absolument, ouais. Il y a des gens très militants parmi eux, il y a des gens qui sont beaucoup moins militants. Je vois qu'ici, il y a en Valais Central, l'archipel qui me semble être un lieu de discussion intéressant, qui propose beaucoup d'événements dans le mois de l'agroécologie. Nous, à l'université à Lausanne, on a toujours présenté deux ou trois événements. Cette année, on a surtout misé sur un événement grand public. C'est la première fois. On s'est dit, mais en fait, il faut que le paysan ne soit plus le centre de cette agroécologie. On voudrait plutôt que tout à chacun devienne acteur d'une certaine transition, surtout quand on voit les coûts de la santé sont à 70% responsable du coût caché de cette alimentation, on se dit il est temps de redonner la balle à tout à chacun. Et surtout, on a voulu faire le lien avec la culture et non pas simplement avec l'agriculture. Les deux sont liés, culture et agriculture, et on va beaucoup parler de culture alimentaire pendant cette journée. Voilà, on a fait quelque chose de festif, on accueille avec beaucoup de spectacles. Le tout à chacun, on va dire.
Voilà, il y a des événements un petit peu partout en Suisse,
autour de ce
mois de l'agroécologie. Le site, c'est agroecologyworks.ch. Là, il y a tous les événements qui sont répertoriés, Ecology avec Y, hein, parce que c'est en anglais. Et là, on trouve absolument tout. On n'a pas parlé de gaspillage alimentaire, on n'a pas parlé de choses qui font partie du problème aussi. Hein. Vous disiez, il faut que le public s'empare. La conscience du public, c'est aussi
d'autant
essayer
plus que
de consommer un peu mieux. Hein.
Le problème du gaspillage alimentaire, il est avant tout dans nos frigos. Donc oui,
merci.
Il faut y penser.
Merci à vous.